Je parle tout bas pour ne pas me réveiller.
Accroche-toi bien.
Ça suffit.
Dans tes rêves.
C'est impossible.
Vous êtes en retard pour le thé.
Seulement si tu crois que c'est impossible. Dans tes rêves.
Dans tes rêves, il y a un gamin en culotte courte qui fouille une malle au trésor dans le grenier de ses ancêtres. Il découvre un vieux globe terrestre qui tourne sur lui-même avec des continents en couleur et des océans bleus. Le môme, qui vient du futur, ne comprend pas très bien quoi peut servir cette drôle de terre déconnectée qui ne tourne pas rond. Dans son école du futur, on n'enseigne plus la géographie ni les frontières, ces vieux machins qui ne servent à rien. Si la terre tourne toujours en rond, ça fait belle lurette que les nations-relations ont remplacé les états-nations. Dans cette humanité sans limites, les gamins ne dessinent plus des pays avec des frontières tout autour. Ils n'ont pas connu le monde d'avant avec ses passeports, ses permis de séjour et ses droits d'asile. Tous ces mots du passé sont une langue étrangère dans le nouveau monde du chacun pour tous. Dans tes rêves, il y a le pays de ton enfance et celui d'utopie. Il n'y a pas de morale à la fin, tout est possible, tu deviens un super-héros de la vraie vie. Alors, si on écoutait un peu plus ce fameux rêveur qui sommeille en nous.
Dans tes rêves.
France Inter.
Laurence Garcia.
Et pour cette nouvelle rêve partie, une rencontre d'imaginaire dont je me suis inspirée, mon premier est écrivain, conteur, essayiste, humaniste, prix Goncourt, poète, entre roman, théâtre et cinéma, c'est un marqueur de parole, comme il dit. Frère migrant, c'est son dernier manifeste poétique qui s'est au seuil. La matière de l'absence, c'est son dernier roman et c'est au point. Bonjour, bonsoir, Patrick Chamoiseau.
Bonsoir.
Il vous plaît mon rêve d'un monde du futur, sans limites, où les globes terrestres ne servent plus à rien?
Il est magnifique, hein. Si on peut imaginer que les frontières ne soient plus des guillotines et qu'elles ne servent qu'à rythmer les saveurs de la différence, là, on commence à rentrer dans quelque chose qui est conforme à l'idée du vivant. La planète est vivante, c'est un biotope, c'est un écosystème global, et l'espèce humaine fait partie du vivant. À partir de là, nous habitons une même planète, une seule planète, et on est partout chez soi.
Et on parlera de ces utopies du futur qui sont les vôtres aussi, Patrick Chamoiseau. Mon second est chef d'entreprise, chanteur, animateur de radio, de télé, producteur de l'émission Couleur Tropicale sur RFI depuis 23 ans maintenant, quelle longévité. Fondateur de la radio Tropique FM, vice-président du conseil représentatif des Français d'Outre-mer. Bonjour, bonsoir, Claudie Siard.
Bonsoir, chère Laurence Garcia.
Je suis ravie de retrouver un ancien camarade de cette radio qui fut la mienne,
ouais.
Ma première RFI. Vous, pour résumer, vous vous dites homme des médias et militant.
Oui, ce que disait Patrick Chamoiseau est très juste. Ce qui aujourd'hui anime mon être dans ce monde si troublé, dans cette période de crise identitaire et de refus de regarder l'autre comme soi-même, ce qui m'anime c'est ça, c'est cette utopie que le monde peut être différent et que nous pouvons le changer, abolir les frontières, que chaque être humain puisse s'établir là où il pense qu'il peut trouver une vie meilleure. Oui, c'est tout ce qui m'anime. Alors de dire comme ça, homme de médias et militant, oui, pourquoi pas.
Pourquoi pas? Nous, on aime bien les pourquoi pas dans cette émission. Alors, l'un est originaire de la Martinique, l'autre de la Guadeloupe. On parlera de cette vision de la créolisation du monde. On parle résistance de l'imaginaire dans cette émission. Et moi, j'aime beaucoup cette expression, Patrick Chamoiseau. Vous vous dites guerrier l'imaginaire.
Ah oui. Ça, je ne le dis plus tellement, mais.
Ah bon?
Oui, c'est vrai. Enfin, bon, c'est encore un petit peu d'actualité. Guerrier de l'imaginaire, c'est simplement pour simplement indiquer que nous étions sortis d'une forme de colonisation ou même une forme de domination qui était essentiellement violente, hein, qui se traduisait par des conquêtes, des prises de possession et puis des répressions militaires. Et pour échapper à cela, il fallait sortir les armes, etc. Donc il faut encore le faire parce que ces archaïsmes demeurent. Mais d'une manière générale, tout le processus de décolonisation qui s'est produit dans le monde et qui a forcé l'Occident à revisiter d'une certaine manière son rapport aux autres peuples et aux autres civilisations, ce processus s'est transformé. On ne peut pas dire que la colonisation se soit arrêtée.
Ouais.
Je pense qu'elle s'est transformée et tous les systèmes de domination, de contraintes, de standardisation, d'exploitation passent par une prise de possession de l'imaginaire. Le grand désir d'être qui caractérise tout être vivant, ce grand désir de se réaliser, d'atteindre un certain degré de plénitude, aujourd'hui a été capté par des forces qui dominent le monde, notamment celle de l'ultralibéralisme, et ce grand désir d'être a été réduit à des choses qui sont absolument lamentables. Mmh. Ce qui fait qu'aujourd'hui, du fait de ce dogme qui a modifié nos imaginaires et qui nous a transformés globalement en consommateurs, on peut dire qu'on a un véritable effondrement culturel, spirituel de chacun de nous. Et ça, ça met en péril la démocratie elle-même. Comment trouver les nouvelles dynamiques de solidarité, comment fonder un vivre ensemble, non pas en imposant des règles de collectivité, mais simplement en permettant à chacun d'atteindre ce degré de conscience et de connaissance qui rend nécessaire, utile, joyeux, le contact avec l'autre, la relation avec l'autre et la vie avec l'autre et avec la différence.
L'éthique du relationnel dont on parlera tout à l'heure. Claudie Sarr, vous avez un côté guerrier, vous aussi quand même, un peu grande gueule, pas forcément... en utilisant la poétique, l'arme de la poétique, mais les réseaux sociaux ou la musique.
Et pas seulement les manifestations dans Paris.
Oui, les vrais manifs, les réels, pas que virtuels.
Oui, exactement. Ouais. Moi, je suis le fruit d'une histoire évoquée par Patrick Chamoiseau. Je suis le fruit d'un crime contre l'humanité que l'on appelle donc l'esclavage. Je suis né au sein d'un peuple qui est né dans les fers de l'esclavage et de la colonisation. Et lorsque vous êtes conscient de cela, lorsque vous êtes conscient aussi de dire que je suis également le juif que l'on insulte, le Rohingya que l'on tue, le Palestinien à qui on interdit d'avoir un État, d'avoir une terre, je suis l'Africain qui sur sa terre vit toujours d'oppression en oppression, de colonisation, et dans un monde effectivement où ne règne que le commerce. Je suis aussi spectateur et acteur, malgré moi, d'un monde qui a été constitué par les Occidentaux, dont les règles très claires qui nous régissent sont des règles édictées par les Occidentaux, et ils sont les maîtres du jeu. Et dans ce jeu-là, il y a certains pays, certains peuples qui tirent leur épingle du jeu, c'est le cas de le dire, et d'autres pour qui c'est interdit d'avoir une carte gagnante.
Les éternels perdants et les grands joueurs.
Et les éternels perdants qui ou ne veulent pas renverser le jeu, ou ne veulent pas se dire qu'on peut sortir du jeu. Parce que ce monde-là dans lequel nous vivons, il suffit que 10 États, 10 pays ou un continent disent « bah nous on joue plus parce qu'on perd tout le temps, donc on va créer notre propre monde ».
On sort du jeu, quoi.
Exactement. L'idée, c'est aussi pour moi, dans mes actions, c'est de... Et là encore, je peux comprendre que certains, mais comme nous sommes dans nos rêves,
oui.
C'est également de dire que les imaginaires peuvent être reconstruits de part et d'autre. On peut avoir un autre regard sur l'autre. Et ça mérite tous les engagements. Ça mérite des engagements pour nos enfants, là, que nous avons aujourd'hui, pour tous nos enfants, quelle que soit la couleur de leur peau, et pour les générations futures.
D'où le fameux concept de la génération consciente,
ouais,
hein, qui est le vôtre.
Exactement, ouais. Et de dire que s'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble.
Eh bien, je sens qu'on va bien voyager ailleurs, vers un meilleur, avec vous deux, Patrick Chamoiseau et Claudie Sarr. Voilà pour la partition onirique jusqu'à minuit. Vous aussi, vous pouvez poster vos songes de nuit ou vos utopies d'une vie sur notre page Facebook Dans tes rêves. La rêve partie du dimanche soir, mitonnée par le gang des rêveuses, Marie-Hélène Fauquet, la réalisation, Nadia Chougui à la préparation, Muriel Pérez pour la programmation, et ce soir à la technique, notre rêveur, Grégory Vallon. Belle soirée.
Si moi aimer depuis nanina non, toujours et tout dans la caille. Quelquefois à mon corps défendant, j'ai au moins pas ni réponse pour tard. Mon cas songé, on peut pas attendre.
Ma.
Tout corps en moins qu'à mon desserré.
Ma.
Les mon cas, ouais, c'est au moins qu'à temps.
Ma.
Tout au côté ça.
Il monte à moi, mais tu ne vois pas de vie, mon Dieu. suddenly imagine wonder of him come mama. The carnival the load and wonder of him more mama. And they know they don't know about in the don't know.
L'amour qu'a songé, on peut pas attendre.
Mama,
tout corps en moins qu'un monde est serré. L'amour qu'a ouvert, c'est au moins qu'attend. Tout doumi, c'est ça.
Richard Bonnat et Luca Conza, il adore Claudie Ciar
ce soir.
Mon rêve.
Bah, ce trio-là, j'aime à dire qu'il résume ce que je suis en termes d'identité, antillanité et africanité. Voilà.
Ça vous résume aussi, Patrick Chamoiseau ?
Oui, c'est-à-dire que là, nous sommes, comme le disait Claudie, nous sommes nés dans la colonisation. Donc c'est une structure composite. Hein. Et ce qui fait que lorsqu'il faut essayer de définir ce que nous sommes, il faut manier plusieurs types de solidarité. Hein. Solidarité avec le monde amérindien qui a été déstructuré, solidarité avec toute l'Afrique hein, et solidarité aussi avec les colons qui font partie des fondations de ce que nous sommes.
Ouais.
Et solidarité avec tous ces immigrants qui sont venus de partout et qui ont fondé les Amériques. Ce qui fait que nous sommes véritablement un peuple composite avec une idée de la, une perception de la notion identitaire qui est beaucoup plus relationnelle. L'identité relationnelle caractérise beaucoup mieux les fluidités, les mobilités, les multi-appartenances, enfin la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui et qui fait que le monde est devenu ce que Glissant appelle un tout monde, c'est-à-dire une grande scène relationnelle où il est pratiquement imprévisible, où il est très très difficile d'assigner quelqu'un à une langue, à une terre, à une couleur de peau. Où les choses sont devenues beaucoup plus compliquées.
Et on parlera de l'utopie qui est la vôtre aussi, celle de Glissant, du tout le monde. Le premier chapitre du relationnel, c'est l'enfance, l'imaginaire de l'enfance. On commence par ça dans cette émission et on va commencer avec vous, Patrick Chamoiseau. Cette enfance, matière ô combien romanesque, à la fois intime et universelle, que vous avez écrit dans de nombreux livres, et notamment dans la matière de l'absence. Là-bas, vous êtes né à Fort-de-France. Le petit dernier, la fratrie, vous l'appelez la grappe. J'aime beaucoup cette métaphore de la famille, la grappe.
Oui, la grappe, enfin, la notion apparaît beaucoup lorsqu'on s'est retrouvé au moment de la mort de ma mère. La petite famille, donc cinq frères et sœurs, se retrouve autour du corps et là on reconstitue ce qui s'était perdu. Avant on était les enfants de Maninotte, ma mère s'appelait Maninotte, on était la grappe des enfants de Maninotte, une sorte d'indistinction contre laquelle nous avions lutté. Chacun voulait grandir, se tirer de là.
Comme dans beaucoup de familles d'ailleurs.
Et puis après ça s'est reconstitué immédiatement, nous sommes redevenus les enfants de Maninotte. Et ce qui est extraordinaire c'est que en vivant ce moment que tout le monde vit et que l'humanité vit depuis très très longtemps, on perd quelqu'un qu'on aime, d'une certaine manière, on récapitule toute une évolution de l'humanité. Et cette grappe familiale autour de quelqu'un qu'on a perdu m'a rappelé comment Sapiens, lorsqu'il a commencé à s'organiser pour survivre dans les hostilités naturelles qui étaient extrêmement violentes et extrêmement terrifiantes, ceux qui ont le mieux survécu se sont immédiatement constitués en petits groupes très mobiles, très actifs, c'est des frères, c'est des sœurs, c'est des alliés, mais ils constituaient des grappes. Et la grappe a fonctionné comme le fondement ou la base de la tribu, du clan, de la nation.
C'est ça.
Et l'autre élément, c'est que ça m'a renvoyé aussi à l'histoire même de la Martinique, à mesure où c'est une petite île de 1000 km², ce qui fait que durant l'esclavage, comme il y a eu les phénomènes de marronnage, donc ceux qui quittaient l'habitation pour échapper à l'inhumain de l'esclavage, ils n'avaient pas d'arrière-pays comme dans les grandes îles pour constituer de grandes tribus de dingues marrons. Ce qui fait qu'ils étaient obligés pour survivre de rester en petits groupes.
Ouais.
Donc, des grappes comme ça, très mobiles, qui se déplaçaient, et qui étaient poursuivis de temps en temps par des chasseurs de nègres, mais qui arrivaient à se maintenir. Et cette notion de grappe, finalement, elle nous renvoie à la fois à quelque chose d'intime,
c'est ça,
à quelque chose de plus large qui concerne l'humanité elle-même, et puis à une dimension spécifique de l'histoire des Amériques.
Alors une maman, souvent que vous comparez à une guerrière du réel, qui avait un sacré caractère, hein, qui avait une langue aussi très imagée, il paraît que son mot préféré ou son expression c'était catégoriquement, hein, c'est ça, non?
Ouais, ouais.
Et le dimanche, alors souvent on a le spleen le dimanche, pas vous, vous en parlez comme un jour de poésie, et le dimanche dans la maison vous entendiez ça. Alors, je sais pas si la machine à coudre de votre mère faisait ce bruit-là.
Oui, la machine Singer, oui. Parce qu'en fait, bon, on était très pauvres, donc les vêtements étaient déchirés, étaient usés, il fallait repriser. Et le prêt-à-porter n'était pas encore très, très développé. Donc, elle fabriquait des shorts, des pantalons, elle cousait. Et tout le dimanche après-midi était consacré à des opérations de sauvetage des vêtements abîmés.
Sachant qu'il y avait trois linges, hein. Il y avait le linge de l'école, le linge du dimanche,
voilà,
c'est ça?
Voilà, on avait le costume de la messe et du dimanche,
ouais,
qui était bien traité, etc. Il y avait le linge de la maison, qui était généralement ce qu'on appelle une harde ou un rad en créole. Et puis, il y avait le vêtement d'école qu'il fallait aussi bien traité, parce que là, bon, c'était toujours très difficile de rester intact, hein, dans les cohues de l'école et les bagarres, mais bon, il fallait faire gaffe quand même, parce que lorsqu'on perdait des boutons et qu'on avait la chemise
maman se fâchait,
déchirée,
non,
ouais, il fallait affronter le courroux. Mais d'une manière générale, on a appris à respecter les vêtements et à les traiter de manière un peu différenciée. On savait comment se comporter, ouais, avec tel type de vêtements. Le vêtement du dimanche était véritablement l'équivalent du costume de cérémonie.
Sacré, quoi.
Donc
voilà,
là, il fallait... là-dedans, on était presque empesés de peur de trop le froisser ou de trop l'abîmer.
Et c'est dans l'âge d'école que le petit gamin que vous étiez, Patrick Chamoiseau, paraît-il, découvre son premier choc là-bas, à l'école, quand on lui interdit de parler créole. C'est là que tout commence, où on s'y tient.
C'est-à-dire que c'est une situation assez particulière. Nous sommes rendus compte que nous étions nés dans la colonisation et que la langue créole naît dans la plantation esclavagiste. Et avant même qu'il y ait des millions d'Africains qui arrivent, les colons, déjà, en rencontrant les Amérindiens, avaient une forme de créole qui s'était installée. Donc c'est aussi la langue du maître. Donc le créole, c'est la langue de la situation coloniale, esclavagiste. Donc elle est présente. Et ce qui est particulier, c'est que c'est une langue orale qui est restée orale et qui va accompagner la naissance d'un nouvel imaginaire du monde, d'une autre manière de se tenir, de penser le monde, de penser la vie, une philosophie de l'existence, de la survie et de la résistance qui va être portée, organisée par la langue créole. Mais cette langue créole aura toujours à ses côtés la langue française.
Ouais, c'est ça.
Donc la langue française n'est pas étrangère. C'est une langue seconde, c'est pas la langue matricielle.
Oui, oui.
La langue créole, pour moi, c'est une langue matricielle, mais la langue française sera toujours là. Mon père parlait en français, il récitait des fables de La Fontaine,
oui,
mais j'entendais. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une grande modernité dans la mesure où on va se retrouver de plus en plus, et les enfants dans le monde contemporain vont se trouver dans cette situation-là, avec plusieurs langues autour du berceau. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le monde relationnel, on aura autour des enfants plusieurs langues, ils vont entendre plusieurs langues, mais il y aura toujours une langue matricielle.
Ouais,
et cette langue matricielle, c'est celle qui, pour des raisons affectivo-historico-personnelles, va faire que c'est avec elle qu'ils vont organiser leur vision du monde et leur, d'une certaine manière, leur créativité, à la fois d'eux-mêmes et du monde qu'ils auront à affronter.
Dans le futur monde, on sera peut-être tous bilingues, enfin. Autre décor d'enfance avec vous, Claudicia, vous êtes née à Paris, vous avez grandi dans l'Essonne, hein, d'origine donc guadeloupéenne. Alors, on parlait de l'héroïne de la mère, le visage, la figure de la mère, une guerrière du réel. Vous aussi, je crois savoir, Claudicia, que vous parlez de votre mère comme une héroïne aussi, elle était infirmière.
Ouais. Et j'ai aussi entendu la machine Singer à la maison.
À vous aussi.
Parce que nous n'étions également pas riches en banlieue parisienne. Et maman nous fabriquait des vêtements. J'ai le souvenir d'une sarienne que j'adorais. Et puis j'ai dû l'abîmer aussi, comme beaucoup de vêtements. Et oui, cette femme, c'était une héroïne parce que, je vais le dire peut-être pour la première fois, mais ma mère a eu une enfance volée. Elle s'est mariée très jeune pour échapper à beaucoup de choses. Elle a été maman à l'âge de 18 ans. Mais ma mère avait un rêve, elle voulait apprendre, elle voulait se cultiver, elle voulait connaître le monde, et elle voulait un jour rouler dans une Jaguar rouge. Oui, dans une Jaguar rouge. Et ma mère est arrivée en France, enceinte, elle a perdu son premier mari, qui avait un accident de voiture en Guadeloupe. Elle était donc très jeune, avec 6 enfants, et elle est seule. Elle rencontre mon père, il y a un coup de foudre, il se marie, mon frère et moi donc venons au monde. Et ma mère a élevé tous ces enfants-là.
Ne nous la grappe, jamais... la fameuse grappe
qu'on va retrouver au moment de son décès le 17 mars 2001, où nous étions tous autour d'elle. Donc elle était la branche et nous étions donc tous les fruits autour, tous ces grains de raisin. Et ma mère travaillait la nuit à l'hôpital Saint-Antoine, la journée à la clinique des Martinets, et elle s'est sacrifiée, elle a quitté ce monde à 69 ans, elle nous disait, les sacrifices qui sont les miens sont autant de sacrifices que vous n'aurez pas à faire pour vos enfants, mais vous aurez votre part également à faire. Et cette femme ne nous a jamais dit que tout au long de sa vie, on l'avait traitée de sale négresse, parce qu'elle ne voulait pas que ses enfants aient à l'esprit, lorsqu'on touche à votre mère, lorsqu'on insulte votre mère, vous pouvez en vouloir à la terre entière. Elle ne voulait pas ça pour nous.
Qui est cet héritage de pensée et de colère aussi.
Exactement. Et parce que c'était une femme consciente, je crois, finalement, du monde dans lequel nous vivions. Et puis, elle avait des rêves pour ses enfants, et elle voulait que ses enfants puissent réaliser leurs rêves. Alors oui, c'était une héroïne. Et je lui dois également ce sens du regarder l'autre, c'est-à-dire comment on peut aussi faire pour l'autre lorsque nous n'avons peut-être que ça, mais on peut partager le peu que nous avons. Et donc oui, cette femme-là, elle est tout pour moi.
Et pour Claudie Sarr aussi, enfant de cette école-là. Oui. Enfant du zouk, enfant de Kassav, révolution musicale, là aussi vous parliez... d'identité plurielle, à la fois les Antilles, à la fois l'africanité.
Et pas seulement parce que, alors c'est vrai que celles et ceux peut-être qui nous écoutent vont dire, ah bah oui, ah le zouk on aime bien, c'est sympa, on se détend, on s'éclate, on danse.
Oui, bon.
Caricature totale. Pour moi, cette musique-là, ce que les membres de Kassav ont réalisé, donc originaires de la Martinique et de la Guadeloupe, ils ont permis à toute une génération, mais surtout à une identité, de s'affirmer. Dans la chanson de Jacob Desvarieux et de Georges Décimus, Zoukla, c'est celle médicament nouni, ce n'est pas qu'une chanson superficielle et légère, ce n'est pas ça. C'est encore une fois l'affirmation d'une identité. Dire que ces deux bouts de cailloux, ces deux terres qui ont subi toutes sortes de crimes contre l'humanité, sont allées à la conquête du monde. Si Kassav est devenu Kassav, c'est parce que l'Afrique a adopté ce groupe-là en se disant, ce sont les descendants de nos ancêtres déportés qui reviennent. Et encore une fois, lorsque l'on entend Patrick Chamoza parlait de ce créole, la force de cette langue finalement. Lorsque l'on écoute Kassav, ils ne chantent jamais en français, jamais en anglais. Ils ont commis un album en espagnol.
Jacob le dit un peu comme ça.
Non, mais il le dit comme ça parce que c'était les besoins d'une maison de disques. Mais lui et eux en tout cas sont dans cette idée que leur langue, c'est aussi un élément important, une facette importante de leur identité. Et lorsque je parle, puisqu'on parle de cette pluralité des Antilles, on est effectivement entre africanité, donc on parle d'antillanité, mais l'antillanité, elle est chargée d'européanité, d'indianité. Également, lorsque je parle d'indianité, je parle de ceux venus de Pondichéry entre 1854 et 1856.
Oh, je savais que vous alliez être bavard. Je ne savais pas lequel des deux, mais finalement, juste un petit en cours, Claudicia. Quelque part, j'ai vu que vous disiez, je ne crois pas au hasard de la naissance. Quelque part, si je suis née aussi dans l'histoire du peuple afro, ça va complètement avec ma personnalité. Et non, vous n'auriez pas pu vivre à naître à Neuilly, quoi.
Ah, j'aurais pu, j'aurais forcément
Il aurait été un tout autre.
J'aurais été forcément très différent, mais je me dis avec la conscience qui est la mienne, avec cette spiritualité aussi, si je suis né là, à ce moment-là, c'est pour une raison précise. C'est France Fanon qui écrivait très justement que chaque génération doit assumer ou trahir sa mission.
C'est ça. Lui, il chante et l'écrit pour ceux qui sont nés à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Je pense que ça va vous plaire aussi, c'est son imaginaire à lui. C'est un guerrier, l'imaginaire aussi, c'est Bernard Lavilliers avec L'Exilé.
J'ai deux bracelets d'acier qui entravent mes bras, le bruit des bottes qui résonne, mon père a connu ça. Frapper à des portes en fer qui ne s'ouvrent pas, parler à des gens trop fiers qui ne me voient pas. Plus rester, plus partir, plus rêver, on finit naufragé, solitaire, barbelé aux frontières. Capitale douceur Paris, je dormais dans tes bras, capitale violence aussi, je ne te reconnais pas. Toi Paris, ma beauté fatale, symbole de la France, je me suis fait casser normal par ton indifférence. Plus rester, plus partir, plus rêver, on finit naufragé, solitaire, exilé, volontaire. Le bas de novembre encore pose ses mains sur moi. Goût de fer et de cendre, la mort, je n'aime pas ce mois-là. La liste des droits de l'homme, la mélancolie, juste un homme parmi les hommes, tout seul dans Paris. Plus rester, plus partir, plus rêver, on finit naufragé, solitaire, exilé, volontaire.
Et on n'est pas solitaire ce soir, on explore les imaginaires et les utopies de nos deux invités, l'écrivain Patrick Chamoiseau et l'animateur des couleurs tropicales, Claudicia.
Nous pouvons aujourd'hui, dans le monde, partager nos imaginaires sans les détruire. Il y a quelque chose qui reste et qui pourtant s'offre à l'autre. Nous sommes chacun, l'un à l'autre, un archipel. Nous sommes des archipels, les uns pour les autres.
Dans tes rêves.
Patrick Chamoiseau et Claudie Sarr, mais Patrick Chamoiseau, j'imagine que vous avez bien sûr reconnu la voix de votre ami, l'écrivain philosophe martiniquais Édouard Glissant. Ça vous fait sourire, en fait.
Oui, ça fait plaisir de l'entendre. Ouais. Ça fait toujours plaisir.
Vous croyez réellement qu'un jour ou l'autre, ce concept de tout monde, de cette mondialité, qui serait complètement l'inverse de la mondialisation libérale que vous dénoncez, ça se réalisera un jour, ou ça reste quand même des jolis mots, une utopie.
Oui, c'est-à-dire que là, il y a un phénomène qui est patent, qui est la mondialisation économique, avec dominée par le dogme du tout profit libéral, et qui crée de par le monde des précarités absolument effrayantes. Cette mondialisation a chevauché un phénomène qui s'est produit avec la colonisation occidentale. Et ce phénomène a été la mise en relation des cultures, des civilisations qui ont fait, cette mise en relation a fait d'une certaine manière, a desserré les corsets symboliques des vieilles communautés.
Ouais.
Ce qui fait que les individus sont devenus beaucoup plus mobiles et se sont retrouvés dans cette exigence de se construire non pas dans un absolu identitaire, ma peau, mon territoire, ma langue, mon Dieu, mon ceci.
Pour vous, c'est dépassé, c'est archaïque tout ça. Ces repères-là,
ce sont des marqueurs qui sont relativisés aujourd'hui. Parce qu'on, dans la mesure où l'individu aujourd'hui est forcé de se construire dans des flux relationnels, il est forcé de construire son éthique, il peut choisir sa langue natale, il peut choisir sa terre natale, il peut choisir son Dieu, il choisit sa structure familiale, il choisit sa sexualité. Enfin bon, on est véritablement dans une liberté qui est extrêmement, extrêmement violente, hein, qui peut être très angoissante, mais qui est aussi extrêmement, extrêmement enthousiasmante. À partir de là, toutes les attitudes sont possibles. On peut avoir ceux qui rentrent dans des processus de identitaires un peu essentialistes qui peut les rassurer. Et puis on peut avoir les grands poètes de la relation qui vont vivre des citoyennetés au monde, mais qui ne soient pas des citoyennetés désincarnées. Hein. Moi, je ne crois pas à la citoyenneté désincarnée, je suis de nulle part, on est toujours de quelque part. La seule différence dans le flux relationnel, dans ce qu'on appelle le tout monde, c'est qu'on peut choisir son lieu. C'est-à-dire qu'on le voit de plus en plus, hein, des gens qui... Moi, je suis allé dans presque tous les pays du monde. Partout, j'ai trouvé des Martiniquais, des Guadeloupéens installés en Islande, etc., etc. On s'aperçoit que, du fait de la mobilité des individus, on n'a plus l'ancien phénomène de la diaspora. La diaspora... Dans la diaspora, on restait très très dépendant et organisé par le centre originel.
Ouais.
Aujourd'hui, on a plus des phénomènes de métaspora, c'est-à-dire qu'on décème, et que ceux qui partent comme ça, pour X raisons, et notamment leurs enfants, vont s'enraciner dans de nouveaux lieux et vont composer une complexité archipélique qui fait que à la terre d'origine va s'ajouter la terre du pays où on vit, où on s'est réalisé, on a eu des enfants, on a rencontré une opportunité, etc. Cette nouvelle complexité-là est intéressante. Alors, face à cette mondialisation et dans ces flux relationnels, il y a un phénomène qui est très très particulier, qui est que notre niveau de conscience et de perception s'est considérablement élargi. Nous avons conscience du monde. Je reste persuadé que les grands flux migratoires auxquels nous assistons aujourd'hui, qui sont liés à des conditions absolument terribles de vie, on essaye de survivre et on affronte les déserts, les barbelés, les océans.
D'où votre essai, les frères migrants.
Voilà.
Hein,
Mais il y a derrière quand même une vision du monde qui n'est pas simplement étriquée, mais on a véritablement une perception beaucoup plus élargie qui fait que nous vivons d'une certaine manière à des intensités plus ou moins indéterminantes. Un appel du monde, c'est ce qu'on appelle la mondialité.
Derrière le drame des frères migrants, hein, vous l'avez écrit, vous y voyez aussi l'espoir d'un autre monde de la relation, comme vous dites. Vous, Claudie Sciarre, et cette fameuse génération consciente, ce qui n'empêche pas les rêves d'ailleurs, vous partagez cette philosophie aussi poétique forcément, mais du choix non enfermé dans des frontières et de mobilité quelque part inexorable.
Oui, évidemment. Tout à l'heure, vous disiez, le tout-monde, c'est utopie. Et moi, je pense que le tout-monde existe déjà. Il est évident, Patrick vient de l'expliquer et avec maestria. Le tout-monde, et lorsque je pense aux Antilles, par exemple, nous sommes le tout-monde, nous sommes une sorte de sixième continent. Parce que nous sommes composés, comme je le disais tout à l'heure, de tellement d'apports dans nos identités. Et puis, nous sommes aussi le fruit de la terre qui nous voit naître et qui nous voit grandir. En ce qui me concerne, je suis né à Paris, je suis un afro-caribéen de la Guadeloupe, mais j'ai vécu dans un petit village de Haute-Provence, entre Vaison-la-Romaine et Buis-les-Baronnies, et je suis aussi de cette terre-là. La complexité dont nous parlons aujourd'hui, elle tient aussi au regard de l'autre sur nous. Et je voudrais prendre un exemple très concret. Celui de la France dans sa relation avec son outre-mer ou ses outre-mer. Normalement, la France, j'ai entendu tout à l'heure, c'est Édouard Glissant qui disait, ou Patrick qui parlait d'archipel.
C'est Édouard Glissant, oui.
On la
a
France,
tous des archipels
exactement.
Pour les
autres. Mais la France, par exemple, est un archipel.
Oui, c'est
sûr. Normalement, devrait être incarné par l'ensemble des territoires qui la composent, c'est-à-dire de ces régions, de ces collectivités. L'Hexagone, la Corse, et puis la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte, l'île de la Réunion, enfin. Et vous voyez bien... que ce soit dans la représentation officielle ou dans nos météos, même ici et là, vous voyez bien qu'il n'y a que l'Hexagone et la Corse. On est donc là face à une France qui ruse avec ses principes, hein, là pour citer Césaire. On est dans une France qui finalement, dans son imaginaire, ne se voit toujours que comme une métropole, ouais. C'est-à-dire nous sommes le centre quoi qu'il arrive, et les autres ne sont peut-être finalement que les confettis de notre ancien empire colonial. Et il est impossible de se penser en disant, eh bien, la France, c'est aussi ça. C'est
quelque. La France est peut-être jalouse du soleil qui est là-bas, et même si on ne le voit pas sur les bulletins météo, surtout en ce moment.
Non, mais d'un point de vue constitutionnel, ouais. C'est justement anticonstitutionnel d'amputer la France de ses régions. Et c'est pourtant ce qui se passe. Ce que je veux dire, c'est que ce tout monde-là est quelque chose qui doit normalement animer chacun de nous, parce qu'un autre monde est possible. Et cet autre monde, c'est de dire que on ne peut plus penser les êtres humains et leurs conditions de vie en fonction d'économie. Par exemple, lorsque vous entendez les responsables politiques, et j'en aurai terminé, vous dire que nous pouvons accueillir des migrants parce que chez eux, il y a la guerre, mais on ne peut pas les accueillir, c'est pour des raisons économiques. Ouais. L'économie, c'est une guerre, et c'est une guerre qui fait des morts.
Dans ce tout monde, l'un, Patrick Chamoiseau, l'écrit par l'écrit, les essais, les frères migrants, l'autre utilise d'autres cris sur les réseaux sociaux, et ça donne ça, Claudie Séard, sur Facebook.
Aujourd'hui, on est en train de vendre, là, des Africains, des jeunes, nos jeunes, et ça ne vous fait rien. Moi, le descendant d'esclaves, j'ai la haine, et personne ne dit rien, personne ne se révolte. Vous ne comprenez pas ce qui se joue. C'est l'avenir d'une part de l'humanité. C'est l'avenir de toute l'humanité. Lorsque les êtres humains sont capables de vendre d'autres êtres humains, c'est qu'ils s'empoisonnent eux-mêmes. Et là, je m'adresse aux dirigeants africains. Eh, levez-vous. Jusqu'à quand allez-vous profiter de l'argent, de la manne, que ce soit du pétrole ou d'autres matières premières de nos pays, et ne rien faire pour cette jeunesse? Combien de temps encore? Eh, nous, on est prêts. Hein. On est prêts.
C'est un extrait de la vidéo que vous aviez postée en novembre dernier, Claudie Séard, sur Facebook, suite à un reportage de la CNN qui révélait la vente de migrants noirs comme esclaves en Libye. Vidéo qui a été vue plus de...
Je sais pas combien.
4 millions de fois.
Ouais.
D'ailleurs, il paraît que vous vous trouviez trop en colère à un moment donné. Vous avez
hésité
vu à...
Non, mais je l'ai fait. J'étais très en colère parce que déjà le 3 février, j'avais dénoncé sur RFI l'accord signé entre l'Union européenne, la Libye, le Niger, le Sénégal, pour justement freiner tous ces jeunes-là. Et ça fait des années que je dis et que nous disons, nous sommes quelques-uns à dire ce qui est commis envers une jeunesse africaine sur le continent. Et lorsque j'ai fait cette vidéo, une heure après, j'ai voulu l'effacer. Et lorsque j'ai vu le nombre de partages, de vues, et puis mon téléphone s'est mis à sonner, et on m'a dit, il faut que tu fasses quelque chose. Et 3 jours après, on faisait cette manifestation dans Paris.
Et d'ailleurs, vous revenez là, à peine, du Sénégal,
sur un sommet
sur l'éducation.
Oui, puisque nous, on a de grands projets sur ça. Et le président Macron, qui est le seul chef d'État à avoir employé la terminologie consacrée pour dire que ce qui est perpétré en Libye est un crime contre l'humanité. Et voilà. Donc oui, on est là, on est sur de grands projets. On en parlera le moment venu.
Eh ben voilà, réveiller les consciences, dire oui, c'est possible, réattiser cette éthique du relationnel, de l'empathie, comme vous dites aussi, Patrick Chamoiseau. C'est ça le but de la poésie, parce que souvent on peut se dire aussi de la poétique. À quoi sert la poétique par rapport au politique? Quel est le pouvoir du poétique par rapport au politique?
Oui, ce qu'on oublie avec le triomphe, d'une certaine manière, de l'économie, qui a pratiquement évincé tous les principes, toutes les valeurs, toutes les structures symboliques qui nourrissaient une vie humaine et qui nourrissaient la vie d'une collectivité. Le principe le plus déterminant est devenu l'économie. Et l'économie, aujourd'hui, a desséché l'imaginaire politique. Et lorsqu'on laisse mourir des milliers de personnes en Méditerranée sur de vagues prétextes de toute nature, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a un imaginaire politique à la fois national et mondial qui s'est épuisé. Et lorsque l'imaginaire politique est épuisé, il faut réveiller des tressaillements, des lucioles, je dirais, des images nouvelles, réaffirmer des principes et puis ne pas craindre d'agiter quelques utopies qui paraissent complètement utopiques, entre guillemets, mais qui sont nécessaires. Donc la poétique, ça sert d'une certaine manière à réveiller les imaginaires et à renouveler la vision politique du monde.
Et c'est ce que vous faites ce soir tous les deux d'ailleurs.
Dans tes rêves.
Dites-moi ce que vous voulez. Vous voulez la lune peut-être. Vous n'avez qu'à la demander, je l'attraperai au lasso et je vous la descendrai. C'est une magnifique idée. Je vais vous donner la lune, Madeleine.
Quand je l'aurai, qu'est-ce que j'en ferai?
Laurence Garcia.
Avec nos deux invités ce soir, l'écrivain Patrick Chamoiseau, l'animateur militant Claudie Sciarre. Messieurs, il est presque minuit. C'est l'heure de notre dernière séquence imaginaire. Et comme à chaque fois, comme à chacun de mes invités, je vais vous demander pour de vrai de fermer les yeux. Allez hop, vous vous mettez dans votre noir intérieur. Le micro est devant votre bouche. Vous me répondez les yeux fermés. Patrick Chamoiseau, dans vos rêves les plus fous, si vous aviez le pouvoir de recroiser ce petit gamin, là, le petit dernier de la grappe que vous étiez là-bas à la Martinique, qui écoutait les conteurs la nuit, lui racontait des histoires de zombies, d'êtres frontières. Avec du recul, qu'est-ce que vous lui dites à ce môme? Les yeux fermés, je sais que c'est pas facile.
C'est pas ce que je lui dirais. Bon, je pense qu'il a eu raison de vivre une grande partie de son enfance dans son imaginaire. Parce que c'est véritablement, en ce qui concerne l'être humain, c'est véritablement le lieu le plus déterminant.
Donc on lui dit, vas-y, continue.
Continue de rêver, oui.
Et même si on te dit que parfois, t'as pas forcément les pieds sur terre.
Ah, c'est peut-être la meilleure manière de vivre sur terre que de n'avoir pas les pieds
sur terre.
Complètement.
Ouais. Les yeux fermés, pareil, vous pouvez rencontrer cet ado, cet enfant qui était déjà rebelle, je crois savoir, Claudie Sciarre. Voilà, en colère contre peut-être la notion de bien-né, de mal-né, d'injustice sociale. Qu'est-ce que vous lui dites à ce môme, à cet ado de la future génération consciente, avec du recul?
Tu aurais dû écouter ta mère et aller un petit peu plus loin dans tes études. Et tu aurais probablement été beaucoup plus fort aujourd'hui pour les combats, pour tant de combats à mener.
Ah oui?
Ouais, je regrette de ne pas avoir obéi plus souvent.
À
écouter maman.
Bah, faut toujours.
Mais j'ai écouté mes rêves.
Ah ben, c'est déjà pas mal. C'est vrai que votre mère, elle vous voyait prêtre.
Ouais.
J'ai du mal à vous imaginer prêtre.
Oui, elle me voyait prêtre jusqu'au jour où, au catéchisme, je sais plus où on était, enfin, le prêtre nous parle des mystères de l'Église. Et je dis au prêtre, j'étais un peu fanfaron, un peu provocateur. Je dis, mais
non.
Mon père, la vérité n'a pas de mystère. Et là, il a dit à ma mère, il ne sera jamais prêtre.
Non, c'est sûr. Les yeux fermés, Patrick Chamoiseau, si vous pouviez réveiller un célèbre artiste, un célèbre défunt, intellectuel, personnage historique, pour échanger des lumières, parler de ce tout le monde, ce serait qui?
Ah, peut-être, enfin, il y en a beaucoup.
J'imagine.
Mais comme je travaille en ce moment avec lui, je pense que j'aurais réveillé Rabelais.
Ah oui?
J'aurais réveillé Rabelais parce que je suis absolument fasciné par sa liberté langagière, sa puissance langagière, qui est pour nous aujourd'hui une très très grande leçon. Hein, parce que les écrivains d'aujourd'hui ne sont plus enfermés dans un absolu linguistique qui serait donné par une langue natale. Aujourd'hui, tous les écrivains écrivent en présence, comme le dit Glissant, de toutes les langues du monde.
Ouais.
Et on voit à quel point les écrivains se déplacent dans les langues de plus en plus. Et Rabelais avait cette non-sacralisation de la langue qui est absolument précieuse et qui permet à chaque individu de se construire dans toutes les langues qui lui sont données son langage singulier. Et ça, c'est une belle leçon. Donc j'aurais pris un grand plaisir à l'écouter, à l'entendre parler.
Rabelais, Chamoiseau et Claudie Sciarre, vous pouvez réveiller qui?
Au moment où Patrick répondait, j'ai plein de noms me sont passés par l'esprit, mais le premier, c'est Louis Delgrès, tout simplement parce que cet homme-là qui le 10 mai 1802 donc refuse d'obéir à l'ordre napoléonien de rétablir l'esclavage, lui descendant d'esclaves, lui officier de l'armée pourtant napoléonienne et qui décide d'appeler à l'insurrection et il prend l'humanité à témoin au regard du combat qu'il s'apprête à mener. Et à chaque fois que je parle de Louis Delgrès à la radio, dans une émission, j'ai du mal à terminer mes phrases et je pleure. Je pense qu'il est profondément ancré en moi, dans mon esprit, dans ma mémoire, dans chaque partie de mes pores.
Un autre résistant, bon, allez, pleurez pas. Vous pouvez même réouvrir les yeux si vous voulez.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup à tous les deux. On a bien voyagé dans des imaginaires de poétique, de relationnel, de résistance, de tout est possible. Pour continuer de rêver avec vous, Patrick Chamoiseau, il y a la matière de l'absence, au point, frère migrant aussi, bien sûr, au seuil. Et Claudie Sciarre, entre autres, on vous retrouve bien sûr sur les ondes de RFI dans Couleur Tropicale. C'est tous les jours de la semaine à 22h. 10.
Oui, exactement. Et en ce moment, nous terminons la deuxième saison de The Voice, puisque je
présente
The Voice pour l'Afrique. Voilà, donc c'est un bon moment de divertissement. Et puis, nous continuons nos engagements avec le collectif pour justement venir en aide aux migrants. Et nous allons lancer une grande campagne dans 10 pays d'Afrique pour inciter les jeunes à ne pas partir, aux parents également de ne pas pousser les jeunes à partir, mais surtout à responsabiliser les États face à ce drame, à cette bombe qu'est la jeunesse, bombe à retardement.
À suivre, d'autres combats encore à mener. Merci beaucoup messieurs,
merci.
Bonne nuit, beau rêve. Dimanche prochain, nouvelle rêve partie avec d'autres voyageurs de l'autre, un peu particulier, vous le verrez, les nus et culottés, ils s'appellent Nantes et Monde, je ne sais pas si vous les connaissez, ils partent à poil, sans un sou, à la rencontre de l'autre.
Ça, la télé.
Voilà, et l'explorateur cuisinier Frédéric Chesneau, et bien sûr Oser rêver l'imaginaire, et notre plus grande liberté, personne ne peut nous l'enlever.